Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, qu'est-ce qu'un saint ? Il faut se poser la question, puisqu'aujourd'hui nous célébrons, en nombre restreint, mais avec toute la gloire du ciel qui est invisible et bien présente pourtant, nous célébrons la gloire des saints du ciel. Alors qu'est-ce qu'un saint ? Sinon, je crois, c'est la meilleure définition qu'on puisse donner d'un saint, c'est celui qui a pris au sérieux les paroles de notre Seigneur, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le saint, osons le dire, c'est celui qui est parfait. Alors vous me direz, oui, voilà un mot qui est effrayant, je suis tout aussi effrayé que vous par le mot « parfait ». Comment dans ces conditions, nous autres qui sommes imparfaits, nous le savons bien, et combien, nous savons également, cela ne risque pas de changer du jour au lendemain, nous resterons imparfaits encore un bout de temps. Alors comment, s'il faut être parfait pour être saint, comment donc pouvons-nous espérer devenir un jour saint et entrer dans le ciel ? Effectivement, si on entend par « perfection », l'absence totale de défauts, alors mes frères, nous ne sommes pas prêts d'être des saints. Et je vais même vous dire, à ce compte-là, personne, hormis la Vierge Marie et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut être compté pour saint. Parce que ce sont les deux seules personnes humaines, j'entends la nature humaine de Jésus-Christ qui est créée et la Vierge Marie qui est sa mère, ce sont les deux seules qui n'avaient aucun défaut. Parce qu'ils étaient exempts du péché originel, et donc qu'ils n'avaient pas cette pesanteur que tout petit d'homme et tout petit bout de femme connaît. Vous voyez donc que eux seuls auraient pu devenir des saints. Or, dans le livre de l'Apocalypse, que nous venons de lire à l'instant, on nous le dit, au ciel, parce que c'est la vision que saint Jean a à Patmos du ciel, au ciel, le nombre des saints est considérable. Il y a des myriades de myriades, il nous le dit lui-même, « Je vis une foule que nul ne pouvait dénombrer. » Et donc, on ne peut tenir la sainteté pour l'absence totale de défauts. Il n'y aurait à ce rythme-là que la Vierge Marie et son Fils. Or, dans le ciel, on nous dit qu'il y a des myriades de saints, c'est donc que la définition de la sainteté n'est pas l'absence totale de défauts. Alors, comment comprendre cette perfection en laquelle consiste la sainteté ? Il est toujours bon de faire un peu d'étymologie. Ça fait un peu pédant, mais je le fais quand même. Faire un peu d'étymologie, c'est-à-dire revenir à la racine des mots. Or, perfection, ça vient du latin perfectus. Perfectus, qui a donné parfait donc, vient du verbe perficere. Et que veut dire le latin perficere ? Faire complètement, ou accomplir, ou encore, si vous le voulez, achever. Voilà donc ce qu'est la sainteté en tant qu'elle est parfaite. Il s'agit d'achever, il s'agit d'accomplir, il s'agit de faire complètement. Il ne s'agit pas du tout de ne pas avoir de défauts, il s'agit simplement d'accomplir. Alors, vous me direz de quel accomplissement procède la sainteté ? Ça nous intéresse parce qu'on aimerait bien devenir saint quand même. Alors qu'est-ce que c'est que cet accomplissement ? Est-ce qu'il s'agit de cette sorte de jusqu'au boutisme, vous voyez, achèvement, accomplissement ? Est-ce qu'il s'agit de ce jusqu'au boutisme des héros, les tragédies grecques et latines ? Est-ce qu'il s'agit de devenir comme Ulysse ? Est-ce qu'il s'agit de devenir comme Hercule à la force du poignet, pourvu d'une volonté d'acier, d'aller jusqu'au bout du but qu'on s'est fixé, et envers et contre tout ? Envers le fatum, envers la fatalité, envers la volonté des dieux. Vous voyez, est-ce qu'il s'agit d'être en quelque sorte un surhomme ? Pas du tout. Est-ce qu'il s'agit encore d'exceller dans ce qu'on nomme aujourd'hui le développement personnel ? Vous voyez, c'est le mode héroïque sur une version un peu dégradée, si vous voulez. Le développement personnel. À l'aide de méthodes qu'on met à votre disposition, vous faites de la musculation de la personnalité, si vous voulez, et vous, voilà, vous vous perfectionnez vous-même, vous maîtrisez vos peurs, vous déployez les potentiels qui sont en vous. Et est-ce que la sainteté, compris comme un accomplissement, comme un achèvement, relève du héros ou relève du développement personnel, ni l'un ni l'autre ? Il y a dans ces deux figures du héros et du crétin qui fait du développement personnel aujourd'hui, pardon du terme, mais il faut être un peu crétin pour filer l'ensemble de sa vie, pour confier sa vie et pour accepter de suivre tous les conseils d'un coach. Vous voyez, nous sommes pourvus d'une raison, nous sommes faits pour être autonomes. Le bon Dieu aimerait bien que nous devenions de plus en plus. C'est même par là qu'on devient un saint. Alors il ne s'agit pas du tout de s'abandonner à un psy ou un coach. On peut passer par l'aide d'un psy, mais ça ne peut être que momentané, vous voyez ? Alors, ni héros, ni développement personnel. Donc, tout cela n'étant que très humain et très égocentré en réalité, et n'ayant rien à voir avec ce que nous découvrons à chaque page de l'Évangile, où il n'est pas question de regarder son nombril, pas plus que de faire valoir ses petits bras d'acier devant la foule. Je pose donc à nouveau la question, en quel accomplissement consiste la perfection qu'est la sainteté? De quoi s'agit-il? Fondamentalement, c'est très simple, il s'agit de laisser s'accomplir le dessein de Dieu sur soi-même. Vous voyez que la sainteté vue sous cet angle est beaucoup moins inatteignable que s'il s'agissait de n'avoir aucun défaut. Je laisse s'accomplir, il y a bien perfectionnement, il y a bien accomplissement, je laisse s'accomplir la volonté de Dieu sur moi. Ce n'est pas un hasard si dans l'Ancien Testament, on employait pour synonyme de sainteté le mot « justice ». Aujourd'hui, le terme de justice a pris une acception très particulière. Est juste celui qui est équitable, celui qui rend à autrui ce qui lui est dû. Voyez, dans la bouche de l'écrivain sacré dans l'Ancien Testament, ce n'était pas du tout la même acception qui prévalait du terme de justice. Quel est le juste dans l'Ancien Testament? C'est celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu. C'est celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, et cette parole, elle contient les desseins de Dieu. J'écoute Dieu et Dieu me révèle ce qu'il veut. Et alors je laisse s'accomplir le projet de Dieu sur moi. Je laisse se perfectionner le projet de Dieu sur moi. Être juste, donc, c'est accéder à la sagesse divine et s'y conformer. Et même lorsque, à vue humaine, cette volonté divine paraît complètement incompréhensible. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans les figures de l'Ancien Testament, que sont par exemple, enfin je n'en retiens qu'une du reste, Abraham. Abraham, ce qui le caractérise, c'est qu'il se met à l'écoute de Dieu, il est prêt à obéir à Dieu, quels que soient les ordres que Dieu lui donne. Il ne comprend pas les desseins de Dieu. Ils sont incompréhensibles à vue humaine. Effectivement, quand Dieu lui promet une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, alors que sa femme, Sarai, le premier élément de la chaîne, donc, est inféconde, il y a de quoi se demander si Dieu n'est pas tombé sur la tête. Abraham fait confiance au dessein de Dieu. Il laisse s'accomplir les desseins de Dieu et conçoit miraculeusement de sa femme un enfant. De même, lorsque Dieu lui demande de sacrifier cet enfant, ce qui est totalement incompréhensible, Dieu lui a promis un enfant, il a suscité un miracle, et par ce miracle, il lui a permis d'avoir cet enfant, et voilà que Dieu lui demande maintenant de tout rayer de la carte, de tuer ce fils. Abraham est un juste, c'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu, il accepte les desseins de Dieu qui ne sont pas les siens, et il voit la manière d'y faire sa sainteté. Le juste dans le Nouveau Testament, la personne du juste par excellence, hormis notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième personne, disons la plus juste, c'est Saint Joseph. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est qualifié dans les litanies de Saint Joseph. Joseph très juste. Pourquoi? Et c'est ce que nous dit Saint Matthieu explicitement. Lorsque Saint Joseph a ce songe de l'ange qui lui dit « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle est enceinte, mais ce n'est pas d'un adultère qu'elle tient ce fruit, c'est de Dieu même. N'aie pas peur de la prendre chez toi. » Que nous dit saint Matthieu? Quel est le qualificatif qu'il utilise pour parler de saint Joseph? Juste, là encore. Pas du tout parce qu'il est juste à l'égard de sa femme, alors il la garde. Non, en toute justice, il aurait dû la répudier. Si vraiment il avait suivi la justice légale, voyez, il aurait été équitable là. Mais parce qu'il est juste de cette autre justice, de cette vraie justice, qui consiste à écouter Dieu et, même si on n'y comprend rien, à suivre ses volontés, alors Joseph, plus que tout autre, mérite ce nom de juste. Il a accepté de tirer un trait sur les desseins bien légitimes d'un époux. Il voulait susciter à sa femme une postérité, il voulait fonder un foyer comme tout foyer juif. Voyez ? Il a accepté de tout remettre en cause parce que telle n'était pas la volonté de Dieu. Et qu'en écoutant Dieu, en étant juste, alors il a discerné que Dieu voulait autre chose pour lui. Vous voyez, le saint, c'est celui qui, encore une fois, écoute Dieu et s'efforce de ne mettre aucun obstacle. Je dis bien s'efforce. Pour être un saint, il n'y a pas besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être un héros, sans aucune faille, sans aucun défaut. Le juste est de temps en temps, malheureusement, à cause de sa pesanteur, à cause du péché qui le marque, et nous sommes tous marqués du péché, de temps en temps s'écarte des desseins divins. Mais ce n'est pas grave. Ce qui fait le saint, c'est que s'en écartant, il est très prompt à y revenir. Regardez David. David est cet homme qui a la prédilection de Dieu. David est vraiment le petit enfant préféré de son Dieu. David régulièrement s'écarte des plans de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'aura pas le droit de construire le premier temple, mais c'est son fils Salomon qui aura le droit de construire pour la première fois le temple ou mettre l'arche d'alliance, enfin. Il construira un pauvre temple de bois, ce David, et lorsqu'il demande à Dieu l'autorisation de faire un vrai temple en pierre, digne du vrai Dieu, Dieu lui dit non. Tu t'es trop écarté de mes desseins, tu ne mérites pas ça, c'est ton fils qui le fera. Mais David est capable de reconnaître promptement qu'il s'est écarté de la volonté de Dieu, qu'il y a fait obstacle par sa volonté propre, en s'emparant de Bethsabée, cette belle femme qui appartenait à l'un de ses capitaines. Il s'est écarté du dessein de Dieu lorsqu'il a fait tuer en première ligne au combat ce pauvre époux de la femme que s'était accaparé David. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qui, je trouve, rend la sainteté plus accessible, si j'ose dire, plus proche de nous, parce qu'on se reconnaît bien dans ces figures-là. Des saints de la trempe d'un saint Jean-Baptiste ou de la trempe d'un saint Pierre se sont écartés de la volonté de Dieu. Ils ont manqué de justice à un moment ou à un autre, et le Nouveau Testament en atteste. Saint Jean-Baptiste, lorsque Jésus vient devant lui pour être baptisé, refuse de faire descendre l'eau sur le front de son cousin, disant qu'il est indigne pour Jésus de recevoir un baptême de pénitence, qu'il n'est même pas le baptême sacramentel. Que lui répond Jésus ? Laisse faire, c'est ainsi que doit s'accomplir toute justice. Autrement dit, implicitement, Jésus lui dit : tu as manqué de justice. Tu n'as pas écouté ce que ton Dieu voulait. Il convient que tu me baptises, alors baptise-moi. Et là où on voit la sainteté de Saint Jean-Baptiste, c'est qu'il est très prompt à se remettre en scène. Son cousin vient lui dire ça, il n'entre pas, il ne pinaille pas, il ne discute pas, le texte sacré nous dit, il le laisse faire, tout de suite. De la même manière, Saint-Pierre, lors de la première annonce de la Passion, vous savez qu'il regimbe à l'annonce de la Passion. Il ne veut pas que son Seigneur meure, et il le lui dit. Et que dit Jésus ? Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, tu veux suivre tes petits projets, et tu ne veux pas suivre le plan divin sur moi. C'est-à-dire que tu manques de justice, tu n'es pas celui qui écoute. Vous voyez, l'importance de cette écoute de Dieu. Voilà en quoi consiste au fond la sainteté. Écouter la parole de Dieu et tenter de la mettre en pratique, bon an, mal an. C'est le mot phare de l'Ancien Testament que Haodi Israël, Shema Israël. Cette prière est récitée deux fois par jour, comme vous le savez, par les Juifs encore aujourd'hui. C'est dire l'importance qu'on accorde à l'écoute de la parole de Dieu, qui est la condition pour devenir saint. Jésus ne dit rien d'autre lorsqu'avant de quitter ses apôtres, il leur dit « Allez baptiser de tous les peuples faits des nations, apprenez-leur à écouter ce que je vous ai enseigné et ensuite à le mettre en pratique. » Ce que nous célébrons aujourd'hui, mes amis, c'est ni plus ni moins que la gloire de ceux qui ont écouté Dieu. Ils ont des oreilles et n'entendent pas, nous dit le psaume, mais là, le saint est celui qui écoute Dieu. Il ne s'agit donc pas de vous faire un programme de sainteté comme parfois en début de carême ou en début d'avant, on est tenté de le faire avec toutes sortes de petits obstacles, comme une sorte de parcours du combattant, si vous voulez, pour essayer d'accéder à la force du poignet au ciel. Il s'agit simplement d'écouter Dieu. Et lorsque, par malheur, nous nous sommes écartés de la volonté divine, et Dieu parle par les événements, Dieu parle par nos proches, Dieu parle par la bouche des prêtres, mais également par la bouche de vos proches. Il faut savoir saisir cela, c'est ce Dieu qui parle non pas dans le tonnerre, non pas dans la foudre, non pas, mais dans la brise légère. Voilà toute la difficulté de la sainteté, se taire et écouter, comme la Vierge Marie en est un parfait modèle. Marie ne parlait pas, Marie était celle qui écoutait. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Ces paroles de l'Ancienne Alliance, évidemment, s'appliquent parfaitement à la Vierge Marie. Je crois, mes chers amis, que nous ne pourrons pas faire l'économie pour devenir saints. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une écoute attentive, quotidienne, de la parole de Dieu. Et si je vous ai dit que Dieu parlait par la bouche de nos proches, par la bouche des prêtres, le premier lieu dans lequel vous trouvez exprimé le dessein de Dieu, le plan de Dieu sur vous, c'est dans l'Écriture sainte. Il faut donc quotidiennement reprendre cet exercice que je sais, vous avez commencé brillamment cet été, lecture quotidienne de l'Évangile. Vous voyez, rien ne change, rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui sont au ciel sont ceux qui ont scruté les profondeurs, la sagesse de Dieu, dans l'Écriture sainte notamment. Il n'y a pas d'autre voie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.